Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Un an après la révélation des scandales pédophiles dans l'Église catholique de France, les victimes commencent à témoigner et à révéler les abus sexuels dont ils ont souffert, notamment par le biais d'une association, La Parole Libérée, à Lyon. Leurs témoignages sont poignants. Ils révèlent aussi la difficulté à révéler ses secrets, y compris au sein des familles, pour qui le prêtre était une figure respectée. C'est le reportage de Daphné Gastaldi et Mathieu Péris.
Un triste passé résonne sur le parvis de l'église de Sainte-Foy-lès-Lyon, celui des dizaines d'enfants victimes du père Prénat, responsable du groupe scout local des années 70 à 1991. Assis sur les marches, Pierre-Emmanuel Germain-Til revoit ces lieux qui l'ont tant hanté depuis 25 ans.
Quand on rentre par l'église là, à droite, il y a une porte, et tout de suite à gauche, vous avez un escalier qui monte et qui va à son bureau.
C'est dans ce bureau que pendant 2 ans et demi, le prêtre l'emmène presque chaque semaine. À l'abri des regards, le religieux l'embrasse, le caresse. Pierre-Emmanuel tente bien alors d'en parler à sa mère, mais sans succès.
C'était avec les mots d'un gamin de 10 ans. J'ai pu simplement lui dire que le père Prénat me serrait très fort contre lui, qu'il m'embrassait. J'ai pas pu dire plus de choses. J'ai pas pu préciser qu'il me caressait le sexe. J'ai pas pu préciser qu'il me caressait dans le short. Ça, j'ai pas pu l'expliquer parce que j'avais une forme de honte. Et puis à l'époque, j'étais très croyant. Donc du coup, j'avais vraiment l'impression que Dieu pouvait me tomber dessus et que j'allais me mettre à dos toute l'église et toute la paroisse. Donc on a tellement la peur que personne vous croit qu'on se tait. On se tait et on prie pour que ça dure le moins longtemps possible, quoi.
Pourtant, à plusieurs reprises, des familles ont bien tenté de briser le silence en allant voir l'évêque, mais sans alerter la justice. Dans le petit monde catholique lyonnais, on règle ses affaires entre soi. Frédéric Doyer est l'avocat de Bernard Prénat.
Vous avez des parents qui ont choisi une voie qui n'était pas la voie judiciaire. On a les propos, si vous voulez, d'un parent disant on n'a pas eu la lâcheté de déposer plainte. Mais manifestement, à l'époque, l'on estimait qu'il était peut-être envisageable de régler un problème, et c'est un problème de taille, autrement que par la justice. Aujourd'hui, on ne l'envisagerait pas. À l'époque, si.
Silencieux depuis des décennies, le diocèse de Lyon est au cœur de l'affaire. En 1991, sous la pression de quelques familles, le père Prénat est envoyé exercer dans la campagne lyonnaise. Un exil de 25 ans, aucun évêque ne préviendra la justice et le prêtre continuera à officier. Il faut attendre début 2016 pour que le scandale éclate publiquement. Mis en cause, le cardinal Philippe Barbarin se défend en mars lors d'une conférence de presse.
Moi, je n'ai jamais couvert aucun fait de pédophilie. Jamais, jamais, jamais.
La phrase fait encore bondir Alexandre Dussault. Victime lui aussi du père Prénat, il a été l'un des premiers à alerter le cardinal Barbarin en 2014 avant de cofonder l'association La Parole Libérée.
Ma première alerte a eu lieu en juillet 2014. Ça a duré pratiquement 8 mois où je n'étais pas véritablement au courant de l'action. Et à chaque fois, je rappelais pour savoir ce qu'il en était, puisqu'on m'avait dit plusieurs fois que ce prêtre allait être écarté. Et pour l'instant, ce prêtre est toujours prêtre.
Ce n'est qu'à la fin de l'été 2015 que le prêtre sera enfin relevé de son ministère. Une lenteur, une lourdeur de l'institution qui provoque la colère au sein même de l'Église, comme chez ce prêtre qui a souhaité garder l'anonymat.
Il y a un manque de formation complet qui est assez répandu. Il y a de la rétention d'informations, on garde les secrets. Vis-à-vis de ça, maintenant, on reprend une position beaucoup plus stricte. Ces gens-là n'ont rien à faire au nom du Seigneur dans l'Église.
Alors, quelle confiance faut-il accorder aux responsables ecclésiastiques? La question divise au sein de la communauté catholique. Nous sommes à quelques kilomètres de Lyon, à la cathédrale du Puy-en-Velay, et le débat est encore vif chez les pèlerins qui y prennent la route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour beaucoup, les sanctions internes à l'Église ne suffisent pas. C'est à la société civile, à la justice, de juger et de punir.
C'est encore passé à la trappe.
Non, mais tant qu'on aura un discours stupide au niveau des procédures, on s'en sortira pas.
Oui, mais attends, l'Église a mis en place plein de procédures.
Mais oui, mais elle a mis en place des procédures, mais ça renvoie vers la justice oui, laïque. C'est pas l'évêque à faire l'ordre.
Ah bah oui, mais c'est qu'à l'époque, c'était comme ça.
Mais non.
Pour ces croyants, en tout cas, une chose est certaine, les révélations de ces derniers mois leur ont ouvert les yeux. C'est l'avis de Sabine, une paroissienne.
En tant que laïque, en tant que baptisée, on doit dénoncer ces choses-là. On est tous responsables. C'est pas seulement réservé aux prêtres, aux évêques ou aux religieux.
Peu à peu, un coin du voile se lève sur plus de 30 ans de silence collectif. Reste que le père Prénat devra faire face aux 4 plaintes pour agression sexuelle déposées contre lui. Son procès pourrait avoir lieu en 2017.
Et nous retrouverons cette semaine Mathieu Péris et Daphné Gastaldi du collectif We Report pour d'autres reportages sur les scandales d'abus sexuels dans l'Église en France et en Europe. En Silésie, au sud-ouest de la Pologne, les archéologues n'en finissent plus de creuser pour trouver un trésor. Le fameux train d'or qu'aurait caché Hitler durant la Seconde Guerre mondiale dans un tunnel sous la montagne. Une histoire avec un grand H rocambolesque que nous raconte Maya Szymanowska.
Voilà 70 ans que les chercheurs de trésors tentent de retrouver sa trace. Dans la région de la Basse-Silésie, près de l'imposant château Ksiaj, au sud-est de la Pologne. En août 2015, Piotr Koper et Andreas Richter disent avoir localisé le train qui transporterait un fabuleux trésor.
Nous avons fait toutes les analyses possibles, des analyses thermiques, des analyses avec des radars à résonance magnétique, avec un radar Malaga, avec toutes sortes de radars. Tous nos résultats concordent, il faut creuser, c'est tout.
Les imaginations s'enflamment vite, mais celui qui met définitivement le feu aux poudres, c'est le vice-ministre de la Culture, Piotr Żuchowski, par cette annonce.
Nous parlons d'un train de plus de 100 mètres de long. Il s'agit donc d'une découverte exceptionnelle. Personnellement, je suis sûr à plus de 99% que ce train existe.
D'où vient cette foi sans faille? D'où viennent les informations sur le train d'or et sa présence dans cette région? Terre allemande jusqu'en 1945, la région de la Silésie est en effet depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'Eldorado des chercheurs de trésors. Explication de Mathieu Mandré, spécialiste des réseaux ferroviaires au musée de locomotives près de Wrocław.
La Silésie est restée une sorte d'enclave au sein du Troisième Reich parce qu'elle a été à l'abri des attaques aériennes des Alliés et des Soviétiques. On était ici loin des lignes de front, donc on pouvait y mettre à l'abri toutes sortes de choses, pas seulement du matériel industriel, mais aussi des œuvres d'art ou des trésors.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la Silésie devient un coffre-fort du Troisième Reich. Hitler compte même y installer son QG dans le château de Ksiaj et y évacue les biens pris aux Juifs d'Europe. Mais en 1945, la situation bascule, l'armée rouge avance à grands pas, il faut évacuer tous les trésors à la hâte, la ville de Breslau est assiégée. Éclairage de l'historien spécialiste de la Pologne, Jean-Yves Potel.
En avril 1945, donc on est en plein siège. Il y a l'évacuation de la population et il y aurait notamment eu l'évacuation de l'or de Breslau et de tableaux, de collections, etc. Un train serait sorti de Breslau pour aller dans cette zone du mont de Hibou pour cacher tout ce trésor.
On perd sa trace quelque part entre Breslau et Vaubjeur. Pas impossible qu'un train puisse encore se trouver dans la région. Car les montagnes des hiboux, où pourrait être caché le train d'or, sont percées de toutes parts par des milliers de souterrains. C'est le projet titanesque Riese, commencé en 1942 par les Allemands. Bogdan Roshitsky sillonne ces tunnels depuis près de 20 ans.
Nous avons affaire à un chantier gigantesque. Si on regarde sur la carte, cela fait plus de 20 km² de surface, presque 100 km de trottoirs et de halles creusées dans ces sous-sols, 100 000 m3 de souterrains. Des dizaines de kilomètres de routes et de voies ferrées sont construites, mais aussi une multitude d'édifices extérieurs comme des bunkers, des baraquements dont on retrouve encore des vestiges dans les bois et la montagne.
Le projet Riese, ce sont des galeries souterraines creusées dans les montagnes des Hiboux près de Vaubjeur à 6 endroits, et sous le château de Ksiaj qui devait devenir un des QG d'Hitler. À l'œuvre, les prisonniers du camp de Gross-Rosen, qui est devenu l'une des plus grandes concentrations de travailleurs forcés du Troisième Reich. Riese, comme son nom l'indique, le géant en allemand, était un chantier pharaonique. Mais à quel prix ? Explication de l'universitaire Dorota Sula du musée Gross-Rosen.
Les récits des survivants parlent d'un travail épuisant, de rations de nourriture insuffisantes, de conditions de logement très difficiles, de mauvais temps, de vêtements inadaptés à ce type de travail. Tout cela faisait que les prisonniers étaient souvent malades et qu'il y avait une très forte mortalité.
Une espérance de vie de 7 semaines et au moins 9000 morts documentées, voilà le bilan terrible du projet Rizeux, dont on ne connaît toujours pas la finalité exacte. Centre de commandement souterrain, usine d'armement top secrète, en tout cas ces tunnels immenses se prêtent parfaitement à dissimuler les trésors volés par les nazis. Mais loin des richesses, ce sont des découvertes plus macabres qui attendent peut-être les amateurs de trésors. Car un an après l'annonce de sa découverte, le train en or demeure un mystère. Ce qui est sûr, c'est que cela a suscité un énorme regain d'intérêt pour la région et pour son histoire. Un flot de touristes, comme l'a remarqué Bogdan Rochitsky.
Peu importe que le train d'or existe ou pas, nous avons trouvé notre or, ce sont les touristes qui viennent à Valbjeux.
Et à Londres, sur les bords de la Tamise, les archéologues amateurs s'activent aussi. On les appelle les mudlarks. Et lorsque la marée est basse, ils trouvent parfois une pépite datant de l'Antiquité à Londres, Marie Billon.
Avec leurs bottes et leurs pelles, parfois leur lumière accrochée au front, on dirait qu'ils vont creuser un tunnel sous la Tamise, mais ils vont juste fouiller ses rives. Ce sont des mudlarks, des chasseurs de trésors des temps modernes. Ce que ces hommes et ces femmes cherchent, ce sont des objets du passé, des petits bouts de vie qui auraient été jetés ou perdus dans le fleuve de la capitale et bercés par les courants pendant des années, voire des siècles. Certains ont déjà retrouvé des peignes du XVIe siècle ou même une broche datant de l'ère romaine en 43 avant Jésus-Christ et qui se retrouve aujourd'hui exposé au musée de Londres. Mais tout n'est pas intact, bien sûr. Ce ne sont parfois que des bouts de métal ou des moitiés d'objets qui sont retrouvés. Ces témoignages du passé se sont échoués sur les bords de la Tamise et n'attendent que les mudlarks pour les cueillir. Parfois, la collecte est facile. Les archéologues du soir ne viennent sur les berges qu'à marée basse et les eaux ont peut-être juste déposé les objets sur le sable et les cailloux. Mais le plus souvent, il faut creuser. Et pour ça, il faut une autorisation des autorités portuaires de Londres. Pareil pour ceux qui veulent aller plus vite et qui utilisent des détecteurs de métaux. C'est l'excitation d'être le premier à toucher un objet qui n'a peut-être pas été dans la main d'un humain depuis des siècles qui anime les mudlarks, la découverte de petits bouts d'histoire, même si parfois les trouvailles ne sont pas très enthousiasmantes. Bouteilles de plastique jetées dans le fleuve la veille ou divers objets du présent se prennent aussi dans leur filet. Mais qu'à cela ne tienne, certains mudlarks sont aussi des artistes et font des œuvres d'art en les assemblant ou en les ajoutant à leurs travaux. De quoi faire du neuf avec du pas très vieux.
Les Russes sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés. Le parti présidentiel Russie Unie est donné largement favori et pour cause. Les principaux opposants de Vladimir Poutine sont absents. Alexei Navalny est interdit de scrutin et Boris Nemtsov a été assassiné en 2015. Quant à la presse, elle est sous haute surveillance, minée par la censure. Le site d'information grani.ru a ainsi été interdit il y a 2 ans, mais sa directrice a trouvé le moyen de relancer son activité depuis la France en contournant la censure par le biais de sites miroirs dont l'adresse ne peut être bloquée. Yulia Berezovskaya a raconté à Assel Kipchakova l'histoire de son combat.
Grani, c'est un site indépendant qui existe depuis l'année 2000, qui parle des violations des droits de l'homme, des prisonniers politiques, des protestations. On parle aussi beaucoup de la guerre en Ukraine. La loi Lugovoy permet en fait les blocages immédiats extrajudiciaires. Notre site a été bloqué par tous les fournisseurs d'accès en Russie juste avant l'annexion de la Crimée pour les appels, je cite, les appels à des activités illégales et à la participation à des rassemblements non autorisés. D'accord ? On ne nous a jamais indiqué le contenu jugé illégal. Le contenu qu'on pourrait en théorie supprimer pour être débloqué. On a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Le site Grani existe toujours. Depuis l'étranger, on peut le lire sans problème. Pour ceux qui sont en Russie, on crée les miroirs du site qui sont bloqués à leur tour. On en a déjà créé presque 700. Et on apprend le public à contourner les blocages. On est très présent sur les réseaux sociaux. En fait, Grani, c'est une petite équipe dispersés et mobiles. Il y a des journalistes qui restent à Moscou avec tous les risques que ça implique. Moi, je me suis installée en France avec mes trois enfants. J'ai créé une association pour lutter contre la censure.
Malgré les censures, peut-on dire qu'il existe encore des espaces de liberté pour les médias en Russie ?
Le Kremlin, là, il a repris en main tous les médias plus ou moins indépendants et importants en termes d'audience. Les grandes chaînes télé, vous le savez, sont contrôlées par l'État depuis longtemps. Et ils diffusent de la propagande hallucinante avec le degré de la haine et de mensonges imaginables. On n'avait pas connu ça pendant les années soviétiques. Mais on trouve quand même, on trouve de l'information. Et l'espace de la discussion, il existe, même s'il est réduit. Il existe surtout sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, qui est une plateforme privilégiée des intellectuels russes en ce moment.
Récemment, le groupe Média RBK, qui regroupe une chaîne de télé et journal en ligne, a publié des enquêtes gênantes. Elles concernent le fils du procureur général Yuri Chaïka ou l'homme d'affaires Kirill Chamalov, qui serait le gendre de Vladimir Poutine. Quelle a été la réaction du Kremlin ?
Ces enquêtes de RBK que vous avez citées n'ont pas été appréciées par le Kremlin. Et c'est pour ça qu'on vient de licencier les chefs de la rédaction. C'est un événement majeur pour le paysage médiatique russe. Pour le journalisme professionnel, la situation est vraiment dramatique. Le Kremlin, je dirais, n'a même plus besoin de vitrine. Il n'y a que quelques titres qui restent. Mais ils sont soumis à la censure et leurs rédacteurs en chef sont convoqués régulièrement par le Kremlin pour recevoir des ordres, des instructions. C'est pas un secret. Une équipe rédactionnelle qui devient trop indépendante, on peut la virer à tout moment, comme on a vu ça avec RBK. C'est une méthode classique, même s'il s'agit d'une compagnie privée, d'un holding privé. Les nouveaux chefs de RBK, en arrivant la semaine dernière, ils ont déclaré aux journalistes qu'il y avait des lignes à ne pas franchir. Donc il y a beaucoup d'autocensure. Grani, c'est un cas à part, parce que le site appartient aux journalistes. Et c'est pour ça qu'on peut quand même résister à la pression. On se considère plutôt comme un groupe de militants. C'est pas un média classique. On est peu nombreux. On est privé de ressources. On peut plus faire du journalisme. On fait partie de la résistance.
Grani.ru, un site d'information militant sur la Russie. C'est un lieu incontournable de l'art nouveau en Europe et il se trouve en Sicile, à Palerme. Le Villino Florio, immense demeure, raconte aussi l'histoire d'une famille et de sa réussite. À Palerme, Cécile Debarge.
C'était l'un des joyaux de l'art nouveau en Europe. Une demeure gigantesque destinée à montrer la puissance de l'une des plus grandes familles italiennes de l'époque, les Florio. Ces Calabrais d'origine tenaient une petite boutique d'épices à la Vucceria, l'un des quartiers populaires de Palerme. Rapidement, ils se sont retrouvés à la tête d'une fonderie, d'une flotte impressionnante et de vignobles qui ont donné naissance au célèbre Marsala, un vin liquoreux qui s'exporte encore aujourd'hui dans le monde entier. Il reste aussi de leur empire le Villino Florio, trois étages dans le plus pur style Liberty, dont la famille a voulu faire le parfait exemple du divertissement. Au rez-de-chaussée, salle de billard et salle de jeu composent l'étage récréatif. Viennent ensuite l'étage de réception avec de grands salons et enfin le dernier étage où vit la famille. Les invités prestigieux s'y pressent et même l'empereur Guillaume II y aurait fait un bref séjour. Pourtant, il a bien failli ne rien rester de ce symbole de la belle époque palermitaine. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 1962, un incendie détruit les meubles, les vitraux, les tapisseries et les peintures d'époque. La piste criminelle est privilégiée par les autorités. La villa aurait été incendiée pour récupérer le terrain et y construire d'immenses immeubles sans charme, similaires à ceux qui entourent aujourd'hui la villa. Après plus de 2 millions d'euros de travaux et plus de 30 ans de projets divers et variés de restauration, le Villino Florio a enfin rouvert ses portes au public.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Besset. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe. À demain.